Seigneur, je vais vous inviter ce soir à faire quand même pas mal de lectures. Elles sont courtes, mais il y a quelques références à lire. On va commencer dans le livre d'Ésaïe à lire ensemble au chapitre 41, le verset 10. Beaucoup de lecteurs de la Bible pourraient le citer de mémoire. Il est tellement merveilleux, une promesse de Dieu si précieuse. Ésaïe 41, le verset 10, c'est Dieu qui parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et retenons bien sûr tout ce texte, il est tellement précieux, mais pour nous ce soir en particulier, je viens à ton secours. Amen. Et dans Ésaïe toujours, chapitre 63, et nous lirons la deuxième moitié du verset 19, c'est une prière intense que le prophète adresse à Dieu. Ésaïe 63, au milieu du verset 19, Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Et en particulier, cette supplication du prophète, Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia. Et puis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, on va lire le seul verset 4. Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Au verset 8 du même chapitre, Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et toujours dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Voilà, c'est par ces textes que ce soir je souhaiterais introduire cette prédication que j'ai intitulée, j'ai un peu hésité pour choisir le titre, alors j'ai finalement opté pour celui-ci, Les interventions de Dieu. Les interventions de Dieu. J'ai hésité avec un autre libellé, le Dieu qui vient. Et le Dieu qui intervient. Parce que c'est ce qui ressort de tous ces textes, et on aurait pu en lire bien d'autres, qui nous montrent que la volonté de Dieu, c'est de venir. Je faisais mention dimanche matin dans le geste d'offrande hein, de Marie de Béthanie, qui elle est transportée par l'affection de l'Esprit pour Jésus. Et je faisais la remarque que dans ce geste, dans un premier temps, elle répand du parfum sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle brise le vase, elle répand tout le reste sur la tête de Jésus. Mais tous ces gestes sont remplis d'un message spirituel. Elle commence par honorer les pieds de Jésus. Elle est en train, c'est comme ça que je le comprends, de lui dire un grand merci d'être venu. Tes pieds ont foulé la terre. Tu as visité l'humanité en perdition. La Bible nous dit Jésus allait de lieu en lieu. Donc il venait là, et chaque fois qu'il venait, il intervenait. Il venait avec l'intention d'opérer une œuvre que lui seul est capable d'opérer. Gloire à Dieu. Les interventions de Dieu, comment on pourrait définir d'une manière assez générique, l'intervention de Dieu, c'est un moment précis dans la vie de l'homme où Dieu s'approche de lui pour changer sa situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Ça, c'est l'intervention de Dieu. C'est voulu, c'est planifié, c'est justifié par une détresse qu'il a vue. Alors, il vient, il s'approche avec l'intention et la capacité de changer la situation. Alors, quand je comprends ça, j'ai envie de lui dire, comme Ésaïe, « Oh, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, mes montagnes s'ébranleraient. » Les montagnes qui sont un peu l'image des problématiques impressionnantes qui pourraient se dresser sur mon chemin, ce n'est pas avec, ma petite perceuse de chez Lidl que je vais faire mon tunnel, n'est-ce pas? Je vais griller tous les moteurs des percussions et des choses comme ça, voyez. Mais c'est l'intervention de Dieu. Le prophète Ésaïe a compris comme une évidence flagrante que si Dieu ne vient pas et s'il n'intervient pas, ben, c'est les montagnes qui auront raison de la foi et de l'espérance du peuple de Dieu. Et justement, 7 siècles plus tard, Dieu a exaucé cette prière, il a déchiré les cieux, alléluia, et il est descendu. Jésus est venu, et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand Jésus vient dans la maison de Pierre, c'est Dieu qui vient. Et c'est Dieu qui intervient. Lorsque Jésus prend la main brûlante de la belle-mère de l'apôtre, dévorée par la fièvre, et que d'une parole de sa bouche, il menace la fièvre qui se retire aussitôt, c'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui intervient. Et la Bible est remplie d'exemples, frères et sœurs, de circonstances, de problèmes, de détresse, de ressentis intérieurs vraiment en berne, qui ont nécessité les interventions de Dieu. Et aujourd'hui, comme jadis, Dieu veut intervenir. Amen. Il est le Dieu qui vient, et quand il vient, il intervient, et il suscite un miraculeux changement dans les circonstances qui sont présentes. C'est quand même très parlant. C'est pourquoi j'ai voulu vous lire ces 3 versets de l'Apocalypse qui nous présentent le Seigneur qui était, qui est, et on serait tenté de dire, et qui sera. Hein? Non, il se présente comme celui qui vient. D'ailleurs, les dernières paroles de l'Apocalypse, c'est « Voici, je viens, bientôt !» Et le Saint-Esprit et l'Église ensemble répondent en disant « Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Amen !» Et il faut que dans mon cœur vibre cette prière. Et dans le nôtre, il faut que notre Église que nous composons soit, comme le prophète Ésaïe, affamée, assoiffée, intensément désireuse, que le Seigneur vienne et qu'il intervienne. Et c'est sûr, les conséquences en seront glorieuses et bénéfiques pour les frères, les sœurs, les hommes que le Seigneur visite ainsi, que le Seigneur le fasse, gloire à Dieu. Il est venu en Jésus-Christ pour sauver le monde, on le sait, hein, on le sait. L'humanité plongée dans une perdition totale avait tellement besoin que Dieu vienne en voyant de son trône, en voyant l'état déprimant dans lequel l'humanité s'était, eh bien, enlisée à cause du péché. Dieu aurait pu renoncer, mais notre Dieu ne renonce jamais. J'aimerais te dire que notre Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Et cela à tous les échelons. À l'échelon personnel de ta vie intime. D'ailleurs, Dieu commencera toujours par cet échelon-là. Mon cœur, ton ressenti, tes dispositions intérieures, tes questionnements. On va le voir tout à l'heure dans un exemple biblique un peu plus en détail. Parfois, nous serons dans des situations intérieures personnelles tellement complexes que seule l'intervention de Dieu sera en mesure d'engendrer un glorieux changement. Amen. Quelqu'un dans sa prière tout à l'heure a dit « Quand tu viens, tu donnes la paix. » Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai dit « Seigneur, merci parce que c'est bon. Je peux prêcher ce soir avec plus d'assurance parce que c'est la pensée de Dieu pour ce soir. Dieu veut venir et il veut intervenir. » Et parfois, nous sommes dans une vision un peu nébuleuse. On a envie de dire « Oui, je le crois, mais c'est pour maintenant. » C'est pour ce soir, c'est pour ton cœur, c'est pour ta vie, c'est pour les circonstances que tu as de la peine à gérer. Tu es là peut-être à un pas d'être débordé par la complexité des événements qui t'assaillent, qui t'assiègent. Eh bien, je suis heureux de te rappeler que la seule et vraie solution, c'est que Dieu vienne et qu'il intervienne. Et il engendrera la victoire. La bénédiction, ça commence par mon cœur, par ton cœur. Et moi, je prie pour que ça puisse se faire aussi dans mon couple. Moi, je suis un jeune marié. Pourquoi vous riez ? Un jeune marié, hein, de 42 ans de mariage. Mais jusqu'au dernier jour, je prie le Seigneur pour qu'il vienne et qu'il intervienne pour ma vie de couple, afin qu'ensemble avec mon épouse, nous puissions jusqu'au dernier pas de notre marche terrestre être rayonnants, épanouis, servant le Seigneur et dégageant la bonne odeur de Jésus-Christ autour de nous, communiquant au fil des contacts quotidiens avec les uns les autres quelque chose du Seigneur. Eh bien, pour relever tous les défis qui chercheront, c'est sûr, à mettre en souffrance les couples chrétiens, parce que les défis sont nombreux. La solution, c'est que Dieu vienne. La présence de Christ au sein du couple. Il est la troisième corde qui rend incassable ce lien qui unit le couple chrétien. J'adresse avec beaucoup de simplicité et de cœur, et vraiment, je me mets dans le lot, que Dieu bénisse les couples chrétiens. Parce que nous n'ignorons pas que dans les desseins, je dirais, prioritaires de l'adversaire, ils font partie des cibles en première ligne. Par toutes sortes de médias, de moyens, il va chercher à troubler les couples chrétiens, à les affaiblir, à les perturber, à les faire vaciller. Mais il y a cette volonté merveilleuse de Dieu d'intervenir afin de donner aux couples chrétiens les capacités, comme la maison bâtie sur le roc, de rester debout malgré les intempéries les plus furieuses. Gloire à Dieu, parce que établi sur le roc. Ô Seigneur, viens dans nos couples et interviens dans nos couples afin de maintenir toujours cette flamme spirituelle et consensuelle entre les deux conjoints, cette vision qui embrase nos cœurs pour la gloire de ton nom. Viens dans nos couples, viens dans nos familles, afin que nous puissions transmettre à nos enfants. Viens, interviens dans nos familles, dans nos maisons, mais interviens au sein de nos églises, et de l'église ici, que nous, parce qu'on ne prêche pas pour les autres, mais aussi pour nous. Interviens au niveau, je dirais, communautaire, ecclésial, que chacune de nos réunions, c'est ma prière, mes bien-aimés, soit l'occasion d'une visitation de Dieu. La Bible dit, tes pas versent l'abondance. Amen. Quand les pas du Seigneur nous visitent, il y a abondance de richesses, de guérison, de joie, de victoire, de ferveur. Alléluia. C'est un échelon à ne pas négliger. À l'échelon communautaire, nous avons besoin que Jésus vienne. Quelqu'un me dira, mais il est partout, il est là, on le... Oui, oui, mais je parle, et tu le sais bien, de ces moments de visitation forte, puissante, où parfois même nous sommes en larmes, tellement nous sommes bouleversés par la beauté de sa présence. Nous ressortons de ces moments bénis, complètement transformés, oui ou non ? Transformés, régénérés, nos pensées ne sont plus les mêmes, on pense plus pareil, on ne ressent plus pareil, les dispositions intérieures ont été revigorées, alléluia. On a besoin que le Seigneur nous visite. Ésaïe, en son temps, en a fait un sujet de prière majeur. Oh, si tu descendais. Eh bien, en 2024, nous avons tellement besoin d'exprimer la même soif, mes frères et mes sœurs, dans des temps d'apostasie où l'iniquité grandit et approche de son paroxysme. Eh bien, l'Église qui vit des temps difficiles par toute la terre n'a qu'une seule source de victoire, c'est que Jésus vienne et qu'il intervienne, et qu'à chacune de ses interventions, il rassure, il fortifie, il réjouisse, il console, il, alléluia, il remet en marche, hein, que le Seigneur soit béni. On a besoin tellement des interventions du Seigneur. Il est celui qui vient, qui visite, et quand il vient, il transforme la situation. Que son nom soit béni. Les interventions de Dieu sont innombrables dans les saintes Écritures. On pourrait en trouver une grande quantité, une grande quantité. On ne va pas en énumérer une longue liste, mais moi je suis bouleversé de voir par exemple comment le Seigneur est venu dans la prison où il y avait l'apôtre Pierre. La veille de son exécution, Pierre est sous la surveillance de 16 gardes. La prison est verrouillée. Lui dort. Il a enlevé ses sandales, il a desserré sa ceinture. Peut-être qu'un jour nous reviendrons sur tous ces détails chargés d'enseignement. Une église est en train de prier, d'intercéder en sa faveur, et l'Écriture me dit, un ange de Dieu survint. Venir, intervenir, survenir, c'est la même démarche. Un ange de Dieu survint. Oui, parce que quand le Seigneur veut nous visiter, même 16 gardes et même plus, personne ne peut l'arrêter. L'ange de Dieu survient et ça change fondamentalement la situation. Il réveille Pierre, qui a quand même le réveil difficile, un peu comme moi. Il le secoue, il le frappe sur le côté, « Presse-toi, remets tes sandales, remets ta ceinture, ceint-toi les reins. » Et vous savez, la succession de miracles qui vont se produire, les portes s'ouvrent, la porte qui a mis le plus longtemps à s'ouvrir, étrangement, c'est la porte de l'église, la porte de la prison, la cellule, elle s'est ouverte, toute seule. La porte de fer de la ville s'est ouverte toute seule. Pierre vient pour qu'on lui ouvre la porte de l'église. Il a fallu qu'il donne des preuves au Seigneur. Que la porte de l'église ne soit pas grippée, rouillée, et qu'elle ne mette pas toutes sortes de difficultés à s'ouvrir. On n'a pas le temps de tout développer, mais l'Église, elle est sur terre pour ouvrir son cœur et ses portes aux malheureux de l'extérieur. Alléluia! Mais quelquefois, c'est la porte de l'Église qui est la plus dure à ouvrir, hein, avec plein de choses qui se sédimentent, qui se cristallisent. Voilà. Eh bien, comment le Seigneur est intervenu dans cette prison? Ce qui me bouleverse, c'est de voir que même Jésus, en tant que fils de l'homme, a eu besoin d'une intervention divine à Gethsémané. Vous savez, lorsque son angoisse est si forte que des vaisseaux vont éclater et il va transpirer des grumeaux de sang, lorsqu'il va dire, oh, « Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et là, le Père suit attentivement cette scène à Gethsémané et il comprend que son fils a besoin d'une intervention. Il envoie un ange pour le fortifier. Et moi, je me dis, si notre cher Sauveur a eu besoin à Gethsémané d'une intervention d'en haut qui le fortifie, combien plus vous et moi en avons besoin lorsque nous traversons nos Gethsémané à nous. Parce que tu auras ton Gethsémané. Tu auras à gérer des temps et des circonstances et des problématiques qui vont te pousser à dire « Oh, c'est trop dur, si ça pouvait s'éloigner. » Mais tu vas te ressaisir et dire toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et tu pourras prononcer cette parole de victoire parce que l'intervention divine aura fortifié ta foi. Et ce soir, Dieu veut intervenir pour fortifier quelqu'un qui traverse Gethsémané. Dieu est le Dieu qui vient. Il est aussi le Dieu qui intervient. Et quand il intervient, il engendre un changement de situation. Glorieux et merveilleux que le Seigneur le fasse ce soir et puis demain et jusqu'à ce qu'il nous prenne dans sa présence. Les interventions de Dieu, j'ai écrit ici très rapidement, elles sont promises, elles sont certaines, elles sont suffisantes, elles sont ponctuelles, elles sont souveraines. Il intervient quand il le veut et comme il le veut, mais quand il intervient, il ne manque rien au secours qu'il nous apporte. Que ces quelques paroles nous encouragent ce soir, et je terminerai ce message le plus rapidement possible en vous proposant de vous remémorer quelques épisodes de la carrière du prophète Élie. Parce que les 20 années, environ 20 années, qu'a duré le ministère de ce prophète, ont été marquées par des interventions de Dieu, dans des circonstances bien particulières. D'ailleurs, son entrée en lice, on pourrait dire, a été engendré par une intervention de Dieu, parce que c'est dans le livre des rois, un roi, chapitre 17, qu'on fait connaissance avec ce prophète, et quand la Bible en parle pour la première fois, c'est Élie, le Tishbite, un habitant de Galaad, c'est tout. C'est un habitant de Galaad. On ne connaît rien de plus sur ses origines, sur sa condition familiale, ses parents, que sais-je, rien. C'est, on pourrait dire, Dieu a porté ses regards sur un habitant de Galaad. Sauf que, quand Dieu est intervenu chez ce Kidam, il en a fait ce que Élie dit de lui au verset suivant, un serviteur de l'Éternel. Je parlerai ici de l'intervention de Dieu qui se révèle à nous. On ne le connaissait pas, et voici qu'il se fait connaître à nous, et d'un quidam anonyme et anodin, nous devenons des enfants de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu. Cette première intervention bouleverse notre existence qui était insipide en une vie qui entre dans une dimension prévue et prédéfinie depuis toujours par le Seigneur. Dieu veut intervenir, peut-être dans tes projets, peut-être dans tes rêves, dans tes perspectives, dans tes calculs. Moi, écoutez, quand j'étais ado, je voulais être médecin. Et il y en a un qui était fier, hein. C'était mon père. Et il disait à tous ses copains, alors que j'étais encore au collège, « Mon fils, il est presque médecin !» Tellement il avait envie. Mais moi, j'étais motivé par ça. Et puis un jour, Dieu est intervenu. Il s'est révélé. Le Seigneur s'est révélé. Il n'a pas désavoué, désapprouvé mes plans. Mes projets étaient légitimes et tout à fait honorables, mais il m'a révélé les siens. Il m'a révélé ce qu'il avait, lui, préétabli pour ma vie, cet adolescent que j'étais. Et lorsque Dieu m'a révélé, par cette intervention, ses desseins à l'égard du petit ado que j'étais, mais sans difficulté, j'ai écarté mes rêves et je suis entré dans ses plans. C'est l'intervention de la révélation de Dieu, de la révélation de son plan, de sa volonté. Que le Seigneur, s'il y en a besoin pour quelqu'un ce soir, lui donne de vivre cette intervention qui va engendrer une décision radicale, celle d'entrer dans les desseins divins. Et puis, arrive la famine. 3 ans et demi de famine. La famine est là. Alors Dieu intervient pour Élie. Deuxième intervention que j'ai notée pour ce soir. Et j'ai appelé cette intervention l'intervention de la provision. Dieu pourvoit. Il dit à Élie, ils vont tous avoir soif et bien faim, sauf toi. Parce que pour toi, je vais pourvoir. Il le conduit au torrent de Kérit avec l'eau la plus fraîche du pays et à des heures fixes, il y a un pont aérien, une livraison de bœuf, pas bourguignon, mais au moins aussi bon, que les corbeaux livrent aux prophètes. Et tout ceci a été engendré par une intervention de Dieu. Et je voudrais rassurer quelqu'un de la part du Seigneur, ton Dieu, c'est le Dieu de la provision. C'est le Dieu qui ne manquera jamais d'intervenir pour pourvoir à une situation qui humainement pourrait impressionner et t'effrayer même, sauf qu'il est le Dieu qui vient et qui intervient. Et qui pourvoit. Et puis, il y a l'épisode du Carmel avec la pluie qui vient, puis au Carmel, le défi contre les faux prophètes et le feu de l'Éternel tombe, et c'est merveilleux, etc. Et puis, les menaces de Jézabel, Élie se trouve dans le désert au fond d'une déprime noire, et Dieu intervient. La troisième intervention que j'ai choisie pour ce soir, il voit son enfant au bout de ses ressources. Alors il intervient, non pas avec une étude biblique sur la persévérance, mais avec un menu concocté au ciel. Un bon gâteau, même à Aubagne, on n'en mange pas de comme ça. La tarte au citron était excellente, hein. L'autre, ah ouais, ouais. Voilà. Mais alors, ce pain que Dieu a servi à Élie, et cette eau fraîche, bien plus encore que celle de Kérit, ont permis la restauration. Dieu est intervenu pour la restauration. Il a vu que son prophète, excusez-moi l'expression, était en panne, est tombé en panne. Ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Eh bien, Dieu est un dépanneur, un réparateur, un restaurateur. Il ne va jamais demander à son prophète des choses que présentement il n'est pas en disposition, en capacité de faire. Il va d'abord le restaurer. Il y a une sagesse dans les interventions de Dieu. Et le Seigneur veut aussi intervenir pour restaurer. Et je prie pour que par le Saint-Esprit et la parole enseignée, le Seigneur intervienne dans nos cœurs et qu'il restaure, au point que Élie a marché jusqu'à la montagne de Dieu. Et vous savez, il y a là maintenant un quatrième épisode que j'ai sélectionné. À l'entrée de la caverne, un murmure doux et léger, un moment d'aparté intime et intense entre le prophète et son Dieu. J'aime cette expression qui dit que Dieu parlait à Moïse comme on parle à un ami. À un ami. Voyez ? Et Dieu parle à Élie sur un ton d'un tel respect. Qu'est-ce que tu as, Élie ? Il y a une telle sollicitude dans le ton du Seigneur. Il n'est pas moralisateur. Qu'est-ce que tu as ? Alors, Élie vide son sac. Dieu n'entre pas sur le terrain d'un débat infructueux, mais il lui dit, allez, prends ta corne et remplis-la d'huile. Dieu veut passer à autre chose maintenant. Il veut qu'une page soit tournée. Dieu est en train de dire, Élie, il y a une nouvelle page que je veux écrire dans ta marche spirituelle. Entre dans cette nouvelle page et ça va commencer en remplissant à nouveau ta corne d'huile. Mes frères et mes sœurs, chaque fois que Dieu nous verra en déficit d'onction du Saint-Esprit, de vie du Saint-Esprit, chaque fois qu'il verra à la jauge de notre âme le niveau dans la réserve, il voudra intervenir. Il veut venir, il veut intervenir pour remplir ta corne de sa précieuse onction, afin que tu restes et te maintiennes dans une plénitude sans cesse renouvelée du Saint-Esprit dans ta vie. Gloire à Dieu. Dans ta chambre, quand tu te mets quotidiennement en prière, Dieu vient et il intervient. Et une ondée spirituelle peut visiter ton être, tu peux parler en langue, tu peux même chanter en langue dans ton bureau, ta cuisine, tu peux abondamment, et l'apôtre Paul en parle, de l'abondance que dans sa piété personnelle, il expérimente. Je parle en langue plus que vous tous dans ces moments intimes. Mais là, on se régénère. On se reconstruit intérieurement. Dieu veut intervenir dans ta vie pour te régénérer dans la plénitude du Saint-Esprit et il remet Élie en mouvement. Des oppositions virulentes l'avaient arrêté, mais Dieu ne veut pas d'un prophète à l'arrêt, Dieu veut un prophète en mouvement. Et là, Dieu le remet en mouvement. Va chez l'un, va chez l'autre, loin Élisée, et il lui donne toute une feuille de route. L'apôtre Paul écrira aux Galates, « Oh, qui vous a arrêté ? Qui vous a arrêté ? Je prie le Seigneur pour que ma marche personnelle ne subisse jamais des arrêts prolongés. Je peux être surpris, bloqué, mais je ne dois pas rester longtemps en arrêt, parce que Dieu veut intervenir pour me remettre en mouvement, parce qu'il y a encore un chemin à parcourir et un programme, un mandat à remplir. Et que le Seigneur nous remette en mouvement. Amen. Moi, je prie pour une église d'Aubagne en mouvement. Une église d'Aubagne qui va reprendre l'élan d'évangéliser, l'élan de témoigner, l'élan d'inviter des amis, des familles, des voisins à des rencontres particulières, des missions que par l'intervention du Seigneur, il se passe ce merveilleux phénomène. Et puis je termine la dernière intervention divine pour Élie, c'est à travers un char de feu, des chevaux de feu, pour enlever Élie glorieusement dans le ciel. Ah, moi j'aimerais partir comme ça. Mais 4 chevaux, 8 chevaux. Ça c'est l'enlèvement, mes amis, c'est l'enlèvement. Je dirais l'intervention ultime que Dieu réserve à ses enfants persévérants, c'est l'enlèvement. Gloire à Dieu, c'est l'enlèvement. Ce n'est pas une fin, mitigée, en demi-teinte, mais c'est un enlèvement glorieux. Élie voulait mourir dans le désert, Dieu avait programmé de l'enlever dans un char de feu. Vous préférez quoi, vous? Et c'est l'intervention du Seigneur. C'est l'intervention du Seigneur. Et la Bible m'exhorte à veiller sur moi-même, à me tenir toujours prêt et à être conscient que d'un moment à l'autre, plus qu'un char de feu, mais le Seigneur lui-même va venir enlever son Église. Et moi, je veux être prêt. Je ne veux pas me préparer. Parce que celui qui se dit « je vais me préparer », il est déjà en décalage. On vit des temps où il faut être prêt. Gloire à Dieu. Je me couche dans le Seigneur, je me réveille avec le Seigneur, je vis avec le Seigneur, je veille sur ma foi, ma santé spirituelle. Je veux être prêt parce qu'il vient. Il vient pour enlever ses enfants persévérants, que le Seigneur soit béni. Ne permettons à l'adversaire aucune digression, mais gardons bien nos yeux fixés sur cette ultime intervention du Seigneur quand il va enlever sa bien-aimée, sa chère Église, pour que nous soyons pour toujours avec le Seigneur, comme dit la Bible. Amen.